à Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manelakidza en direct de Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui du mercredi 6 février 2019, édition de 17h30 temps universel. D'abord le sommaire. Les protagonistes au conflit centrafricain ont signé à Bangui l'accord de paix paraphé hier à Khartoum. Violent combat à Bua au Cameroun entre l'armée et les séparatistes anglophones. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo séjourne en Belgique pour sa liberté conditionnelle. Et l'opposition zimbabwéenne refuse l'appel au dialogue du président Emmerson Mnangagwa pour apaiser les tensions. En Afrique du Sud, arrestation de 5 personnes pour corruption sous l'ère Jacob Zuma. Aux États-Unis, au lendemain du discours du président Donald Trump sur l'état de l'Union, le pays reste très divisé. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Centrafrique, signature à Bangui de l'accord de paix entre le pouvoir et les groupes armés qui contrôlent la majorité du pays. D'après le président Faustin Archange Touadéra, le premier effet de cet accord est la cessation de toute violence contre les civils. Néanmoins, il s'est abstenu de dévoiler le contenu de cet accord. Ce compromis a été paraphé hier à Khartoum au Soudan après 2 semaines d'intenses négociations entre 14 groupes armés et le gouvernement centrafricain. Ce sera le 8e accord de paix conclu depuis 2012 en Centrafrique. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Cameroun, situation tendue ce matin à Bua, chef-lieu de l'une des régions anglophones. Il y a eu au moins une personne tuée et d'importantes dégâts matériels après de violents combats qui ont opposé aujourd'hui l'armée camerounaise à des séparatistes anglophones. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Des tirs ont été entendus très tôt ce mercredi matin à Bua, affirmé plusieurs sources à VOA Afrique. Des tirs attribués à une bande armée qui a fait irruption dans le quartier Bondouma à Bua, rapporte une résidente. Il y a eu des dégâts matériels. Les séparatistes ont incendié une voiture au passage, selon un témoin. Des sources sécuritaires, l'armée a repris le contrôle du quartier peu avant 12 heures en temps universel. Mais il y a eu de nombreuses arrestations. Des jeunes surtout conduits au poste de police de Moliko à Bua a alerté l'avocat international anglophone Arbobala Kongo. Ce matin, le corps d'un soldat camerounais décapité a été retrouvé au quartier Sambit, à Bouya, selon une source locale. Contactée par VOA Afrique, l'armée camerounaise n'a pu le confirmer. Depuis lundi, les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest anglophones connaissent un regain de tension. Un groupe de séparatistes anglophones a appelé à 10 jours de ville morte. Les séparatistes veulent ainsi boycotter la date du 11 février, célébrée comme fête nationale de la jeunesse au Cameroun. C'est en effet le 11 février 1961 que les deux régions anglophones s'étaient rattachées au Cameroun francophone à l'issue d'un référendum. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Merci Jules pour toutes ces précisions sur la situation à Bua. Au Cameroun toujours, l'avocat de l'opposant Maurice Kamto estime illégale sa garde à vue. Maître Sylvain Swop demande sa libération et celle de ses partisans. Monsieur Kamto a été interpellé le 28 janvier à Douala, puis transféré à Yaoundé. Il est poursuivi pour 8 infraction, dont rébellion et incitation à l'insurrection. Sa dernière audition remonte à vendredi. Dans une vidéo enregistrée à Versailles en France, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade appelle à la mobilisation contre ce qu'il qualifie de présidentiel verrouillé. Il exhorte la population à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin le 24 février pour reconduire son successeur Macky Sall. Il a dénoncé l'élimination par le Conseil constitutionnel des deux candidats qui pouvaient, selon lui, faire de l'ombre au président sortant, son propre fils Karim Wade et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Il n'a en revanche pas donné de consigne de vote. L'Union des forces de la résistance qui combat le régime de Idriss Déby Itno au Tchad affirmait être toujours en territoire tchadien malgré l'intervention militaire de la France. Ce groupe armé dit être entré au Tchad avec 3 colonnes distinctes de pick-up armés et reconnaît seulement que Paris a visé une seule. Deux chefs de parti d'opposition en N'Djamena ont jugé inappropriée l'attitude de la France et l'accusant de violer le droit international. Je vous le disais dans les titres, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, bénéficie maintenant d'une liberté conditionnelle. Il réside en Belgique pour l'instant, n'est-ce pas, John Lyndon?
Selon la CPI, Laurent Gbagbo est désormais en liberté conditionnelle en Belgique. La mesure est provisoire parce que son acquittement prononcé le 15 janvier peut encore faire l'objet d'un appel. Le choix de la Belgique est dicté par des raisons familiales. Monsieur Gbagbo a été acquitté par les juges de la CPI et libéré vendredi sous condition. Depuis, Monsieur Gbagbo et son co-inculpé Charles Blégoudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, également libéré, résidaient dans un lieu tenu secret. Parmi les conditions posées par les juges figure l'obligation de résider dans un État membre de la CPI, en attendant un éventuel procès en appel. Un porte-parole des services belges de l'immigration a confirmé qu'un visa de type C d'une validité de 90 jours a été octroyé à Laurent Gbagbo. Samedi, le ministre belge des Affaires étrangères a indiqué que c'est à la demande de la CPI que son pays a accepté d'accueillir l'ancien président ivoirien qui a une femme et un enfant en Belgique.
John Lydon, le programme retour volontaire de l'EIM a permis le rapatriement de plus de 16 000 migrants de Libye en 2018. Il s'agit notamment de migrants originaires de 32 pays d'Afrique et d'Asie qui avaient tenté sans succès de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. De nombreux hommes, femmes ou enfants interceptés ou sauvés en mer se retrouvent dans des centres de rétention en Libye dans des conditions très difficiles et ont opté pour le rapatriement. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, a décidé de bouder l'invitation du président Emmerson Mnangagwa à un dialogue politique pour tenter d'apaiser la fronde sociale. Eki Abadou.
Il n'y participera pas. Nelson Chamisa a très clairement dit que le dialogue national devrait porter sur les inquiétudes économiques et sociales du moment, a déclaré son porte-parole Nkululeko Sibanda. Ce dialogue doit être facilité par quelqu'un d'autre que Mnangagwa, a-t-il poursuivi. Le dialogue n'est pas un jeu, a lui-même estimé M. Chamisa sur Twitter. Nous sommes dans une crise politique causée par des élections frauduleuses. Il faut un véritable dialogue sous l'autorité d'un médiateur crédible, a-t-il ajouté. Arrêter les violences contre les citoyens et les arrestations. La réunion a été convoquée par le président zimbabwéen pour tenter d'apaiser les tensions trois semaines après la répression des manifestations contre la hausse des prix des carburants dans un pays étranglé par la crise économique. Selon les ONG, au moins 12 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de plus d'un millier de personnes.
Et qui a Badou dans cette partie de l'Afrique australe, on parle également de l'Afrique du Sud où 5 personnes accusées du détournement de 105 millions d'euros ont été arrêtées suite à des révélations faites devant une commission d'enquête. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les 5 personnes ont été déférées devant un tribunal de Pretoria pour corruption, blanchiment d'argent et fraude. Elles sont soupçonnées d'avoir reçu de l'argent liquide, des véhicules ou encore des aides financières pour acquérir des propriétés. Les accusés, dont Patrick Gilligam, ex-directeur financier des services pénitentiaires, et Angelo Agrizi, un ancien dirigeant de la société Bossasa, ont tous été libérés après leur comparution, après paiement d'une caution de 1300 euros. Le mois dernier, M. Agrizi a été le témoin vedette de la commission Zondo, chargée d'enquêter sur les scandales qui ont émaillé la présidence de Jacob Zuma de 2009 à 2018. Il a raconté comment Bossasa s'est acheté des contrats publics en corrompant des personnalités proches de l'ANC. Lors de leur témoignage, Angelo Agrizi et d'autres anciens dirigeants de Bossasa ont mis en cause l'ancien président Jacob Zuma et plusieurs ministres de l'actuel gouvernement. Ces révélations interviennent à 3 mois des élections législatives et mettent à mal le parti du président Cyril Ramaphosa qui a promis de rompre avec les pratiques de son prédécesseur.
Merci Yacouba. En Algérie, le camp du président Abdelaziz Bouteflika estime qu'il n'est pas en mesure d'effectuer un 5e mandat en raison de sa maladie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réunion de la coalition internationale contre le groupe État islamique ici aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a assuré que Washington va continuer à diriger la lutte contre le groupe djihadiste malgré le retrait militaire de Syrie. La nature du combat est en train de changer avec la défaite territoriale quasi totale du groupe État islamique en Irak et en Syrie, a-t-il insisté devant les représentants des 74 pays et 5 organisations multilatérales membres de la coalition réunies à Washington. Sur le terrain, un convoi humanitaire est arrivé aux abords d'un camp de déplacés syriens de Rokban, près de la frontière jordanienne, pour la première fois depuis 3 mois. C'est ce qu'a annoncé le Croissant Rouge syrien. Bon. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Danit Sylvani Talani.
La production de cuivre en République démocratique du Congo, premier producteur d'Afrique, a augmenté de 12,9% en 2018 pour atteindre 1,2 million de tonnes d'après la Chambre congolaise de commerce. La production de cobalt, composant important des batteries de voitures électriques, a augmenté de 43,8% pour atteindre 106 439 tonnes, tandis que la production d'or a augmenté de 22,6% pour atteindre 28 539 kg. La société de diamants publics angolaise Ndiama prévoit une production de 13,8 millions de carats en 2022 contre 9,5 millions de carats prévus pour cette année. En 2018, la production était de 9,4 millions de carats. Terminons avec le gouvernement camerounais qui a signé avec la société belge DEM Group un contrat de 157 milliards de francs CFA en vue de la fourniture des équipements au parc national du matériel de génie civil. Selon Investir au Cameroun, le contrat intègre la livraison sur 2 ans de plus de 600 engins et véhicules, la création de 4 centres de formation à la conduite de ces engins, ainsi que des points de service du mat génie dans les 10 régions du pays. Ces équipements permettra d'entretenir des routes et doper le parc pour plus d'efficacité dans la location de ces engins aux entreprises.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, la CAN des moins de 20 ans se poursuit. Le Mali se relance contre le Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
Oui, Eric, le but de Mamoudou Traoré pourrait valoir cher. À la 52e minute, le Mali a frappé et donné la victoire à son pays face au Burkina Faso. 1-0 lors de la 2e journée du groupe B. Du coup, le Mali jouera sa qualification face au Ghana samedi lors de la 1ère journée. Écoutons l'entraîneur des Aiglons, Mamoudou Kané, dit Mourlé.
La clé de ce match aujourd'hui, ça a été l'engagement, la détermination et l'entraide. Ils se sont parlé, ils ont vu qu'on a pris les statistiques de match passé. Le Mali a eu le pourcentage de possession, mais ça n'a pas donné. Aujourd'hui, on a eu un peu de profondeur, un peu de débordement, un peu de provocation. C'est ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, peut-être, c'est ce qui fait qu'on a gagné.
Et en face, le Burkina est déçu de cette contre-performance qui est l'entraîneur, déjà.
C'est la fin d'Agani, Eric,
qu'on va écouter tout de suite. Allez-y.
Nous n'avons pas eu la chance, nous n'avons pas eu le baraka, comme on le dit souvent. Bien sûr, des regrets, parce que le contrat qu'il y a entre la Fédé et moi n'a pas été rempli, parce que je n'ai pas pu qualifier l'équipe pour le mondial. Le contrat qu'il y avait entre les enfants et moi aussi, ça n'a pas été non plus rempli, parce qu'il m'avait promis au fils de tout faire pour gagner donc ce match. Donc c'est dommage, on va retourner encore plus tôt.
Alors, tous ces propos, Yakuba, nous ont été recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant sur place à Maradi.
Tout à fait, Eric.
Et maintenant, des regrets aussi pour le Niger hier.
Oui, Eric, alors qu'une telle victoire sur votre Burundi, avec 2 buts d'avance, synonyme d'espoir en vue de la qualification, le MENA a été rejoint par les Hirondelles. 3-3 à Niamey, du coup, les Nigériens joueront leur qualification pour les demi-finales et le mondial des moins de 20 ans face à l'ogre nigérien vendredi. Justement, les Flying Eagles du Nigeria et l'Afrique du Sud se sont neutralisés 0-0 dans le groupe A. Le Nigeria compte 4 points et n'a plus besoin que d'un seul contre le Niger pour se qualifier. L'Afrique du Sud, elle, a 2 points et devra forcément l'emporter contre le Burundi.
Les Hirondelles, Inhamba Murugamba, comme on le dit, est le président de la FIFA, seul candidat à sa succession.
Tout à fait, Eric. Gianni Infantino, à la tête de la FIFA, est le seul candidat à la prochaine élection à la présidence de l'instance prévue en juin. L'Italo-Suisse est donc assuré d'un deuxième mandat de 4 ans. L'ex-international suisse Raymond Vega, reconverti dans la finance, avait fait part, disons, de son intention de se présenter à l'élection, mais il n'a pas pu recueillir le parrainage nécessaire de 5 des 211 fédérations membres de la FIFA. L'élection à la présidence de la FIFA donc se déroulera le 5 juin prochain à Paris, à l'occasion d'un congrès qui précédera le Mondial féminin de football organisé cette année en France.
Et sans oublier aujourd'hui le Classico Real Madrid-Barcelone à regarder ce soir. Merci Yakuba pour toutes ces précisions et à demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En Centrafrique, le gouvernement et les chefs des 14 groupes armés ont signé aujourd'hui à Bangui l'accord de paix conclu à Khartoum au Soudan. Alors que les deux parties se félicitent de cette entente, dans le pays, c'est encore des interrogations au sujet du contenu de l'accord qui n'est pas encore dévoilé. À Bangui, pour VOA Afrique, la correspondance signée Freeman Sipila.
À Bangui, les rumeurs alimentent l'impatience, surtout sur la question de l'amnistie. Docteur Désiré Erénon, enseignant à l'université de Bangui.
La question de l'amnistie, je voudrais faire observer que l'amnistie a été accordée en 98 après la mutinerie. Elle a été accordée après le coup d'état du 15 mars 2003. L'amnistie a été accordée en 2008 après l'accord de paix globale de Libreville. Ça fait trois fois. Aujourd'hui, c'est la quatrième fois qu'on entend parler de l'amnistie du côté de Khartoum. Une fois, deux fois, trois fois. Quels sont les effets qui ont suivi ces amnisties qui ont été accordées?
Les organisations de la société civile se veulent prudentes et se réservent de tout commentaire jusqu'à ce que le contenu de cet accord dit de paix et de réconciliation soit rendu public. L'avocat Bruno Hyacinthe Biegba, activiste des droits de l'homme, était convié à Khartoum comme observateur.
Nous ne connaissons pas le contenu de ce document, mais nous maintenons nos préoccupations. Et nos préoccupations sont la lutte contre l'impunité et le développement du peuple centrafricain. Donc si le document signé convient aux groupes rebelles comme à la population, c'est ce que nous souhaitons. Mais qu'on ne puisse pas oublier que chacun doit rendre compte des actes qu'il a posés.
Face aux rumeurs et aux campagnes de désinformation menées sur les réseaux sociaux autour de cet accord, Firmin Gribada, directeur de cabinet du président centrafricain et chef de la délégation gouvernementale à Khartoum, appelle à la patience.
Sur les réseaux sociaux, on assiste à une campagne de désinformation sur le contenu de l'accord qui n'est même pas encore rendu public. Quelques personnes de mauvaise volonté se livrent à une campagne qui ne reflète pas du tout le contenu de ce projet d'accord de paix et de réconciliation. Donc j'en appelle à la sérénité donc, de l'ensemble de nos compatriotes. Je les invite donc à patienter. Nous allons rendre public son contenu et à partir de ce moment, on saura de quoi il est question.
Lors de la cérémonie de paraphe de cet accord qui suscite encore des interrogations, le président de la Commission de l'Union africaine a invité les Centrafricains à saisir cette occasion pour tourner la page sombre de l'histoire de leur pays. Moussa Mahamat Faki.
Prenez l'exemple du Rwanda qui préside actuellement notre Union. C'est un pays moderne, uni, qui s'est construit sur des tombes. Ce n'est pas impossible à faire en Centrafrique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères, vous êtes un enseignant. Je crois que vous avez montré votre leadership. Il faut faire toutes les concessions imaginables et nécessaires. Il faut se faire violence tous pour s'accepter et tourner définitivement cette page.
L'accord conclu le 2 février entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés opérant dans le pays est le 8e depuis le déclenchement de la crise fin 2012. Même si celui-ci suscite un espoir, de nombreux centrafricains sont encore sceptiques quant au respect des clauses. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Ce soir, dans À votre avis, à 18h05 sur VOA Afrique, nous aborderons les mutilations sexuelles féminines à l'occasion de la Journée mondiale contre l'excision. Aujourd'hui, plus de 3 millions de filles sont excisées chaque année. Quelle est la situation dans votre pays? Des lois ont-elles été mises en place et sont-elles suivies? Pensez-vous que les traditions doivent être respectées ou que ces pratiques doivent être supprimées? Venez en discuter ce soir en direct dans À votre avis. Vous pouvez nous appeler au 001 202 205 26 33 ou nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Présidentielle Sénégal, vous découvrez ce soir Ousmane Sonko, l'étoile montante. Candidat anti-système, Ousmane Sonko se présente à la présidentielle en révolutionnaire. Très critique envers le pouvoir, il n'hésite jamais à partager son point de vue en public. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de sa radiation de la fonction publique. Aujourd'hui, député à l'Assemblée nationale, il veut être le plus jeune à accéder à la magistrature suprême. Son portrait avec Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar.
Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès de parents fonctionnaires. Il grandit principalement en Casamance, puis effectue ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. La même année, il est major de sa promotion au concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration du Sénégal. En 2001, Ousmane Sonko sort diplômé de l'ENA, section impôts et domaines, et intègre l'administration publique sénégalaise. Son premier poste le conduit au centre des services fiscaux de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Après 3 ans dans l'administration, il participe à la création du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant d'en devenir le secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalie fiscale et budgétaire en mettant en cause le président Macky Sall.
On a une assemblée nationale qui ne l'est que de nom, où on a une majorité des députés qui ne comprennent absolument rien aux enjeux. Beaucoup d'entre eux n'en ont même pas les compétences ou la formation, qui sont téléguidés ou télécommandés à partir du palais de la République.
Suite à cela, il est radié de la fonction publique par le président Macky Sall pour manquement grave au droit de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, a permis de révéler Ousmane Sonko au grand public. Président du parti politique PASTEF, créé en janvier 2014, soit 2 ans avant sa radiation, il est élu député aux législatives de 2017. En janvier 2018, il sort le livre « Pétrole et gaz au Sénégal », chronique d'une spoliation où il accuse le président Macky Sall et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays.
Un président a été élu sur la base d'un certain nombre de slogans liés à la rupture, à la bonne gouvernance, au retour de l'état de droit, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis aux Sénégalais.
Le 6 septembre 2018, il déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2019. Le même jour, il publie un livre programme dénommé Solutions. Dans cet ouvrage, il fait un diagnostic des problèmes sociaux et économique du Sénégal et décline ses propositions pour y remédier. La montée en puissance du leader du PASTEF s'est internationalisée avec sa tournée dans la diaspora. Les Sénégalais répondent présents en investissant massivement les salles. C'est d'ailleurs cette diaspora et la jeunesse qui constituent sa principale force, si l'on se fie à l'observateur politique Ibrahim Bahoum.
Ousmane a le profil jeune, il a le profil technique des jeunes, il a le discours des jeunes, il sait leur parler. Il s'est donc galvanisé des foules. De ce point de vue-là, ça lui a donné effectivement ce que les jeunes appellent maintenant le buzz. Ça lui a donné une certaine popularité. J'allais même dire, au-delà des espérances de beaucoup de ses supporters, il est présent au Sénégal, il est présent dans la diaspora.
Charismatique, Ousmane Sonko compte principalement sur son entente avec la jeunesse pour maximiser ses chances d'être le président le plus jeune du Sénégal au soir du 24 février 2019. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Aujourd'hui, 6 février 2019, est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Plusieurs pays d'Afrique pénalisent l'excision sans réellement appliquer la loi. Au Mali, par exemple, la société civile se bat depuis 2002 pour faire interdire les MGF que subissent 80% des filles et femmes. Nathalie Barge fait le point avec Brahima Balo, chargé de programme de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles.
Au Mali, par rapport à la loi contre l'excision, le contexte a un peu évolué parce que le ministère de la Protection de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et nous, les ONG, nous avons élaboré un projet de loi contre les violences par défi de genre. Et dans ce projet de loi, il y a l'excision et les mariages d'enfants. Ce projet est au niveau du gouvernement qui doit se statuer en conseil des ministres puis envoyer le document au niveau de l'Assemblée nationale pour son adoption. Nous, les acteurs, nous sommes conscients du problème. On n'a pas baissé les bras. On a fait un lobby avec nos partenaires pour qu'on puisse avancer en matière.
Cela fait plusieurs années que la société civile essaie de faire passer une telle loi qui interdirait l'excision. Cependant, à chaque fois, elle est confrontée à de nombreuses voix réticentes. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, cela va passer ?
Bon, nous espérons que cela va passer parce que quand vous faites une analyse du contexte malien, il y a une montée de l'intégrisme religieux qui fait une lobby forte auprès du gouvernement malien qui malheureusement cède le plus souvent à ces chantages-là. Cette fois-ci, nous sommes donné beaucoup d'alliés et même dans ces milieux religieux qui sont en faveur de cette loi-là. Donc nous espérons que le Mali va adopter une loi qui interdirait les violences basées sur les genres, y compris la pratique des mutilations génitales féminines.
Comment se fait-il qu'au Mali, on en soit encore à 90% des filles et femmes entre 15 et 45 ans qui sont donc victimes d'excision?
Mais quand on fait une analyse de la dernière EDS, les filles de 0 à 14 ans, nous sommes à 69%.
Ce qui est encore élevé.
Oui, c'est encore élevé, mais il a une baisse notoire à ce niveau-là. Et puis, il y a un gynécologue malien, le professeur Moustapha Touré, qui a fait une analyse des filles de 0 à 14 à Bamako, mais le taux d'excision était estimé à 51%. Ça, c'est dans la ville de Bamako. C'est là où l'on se rend compte qu'effectivement, le travail des associations et ONG et du gouvernement malien sont en train de porter fruit.
Brahima Balo, chargé d'un programme de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles à Bamako.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le président Donald Trump a déroulé son agenda devant les parlementaires et les Américains à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union. Une bonne partie de son discours était axée sur la nécessité de trouver de compromis. Donc, ce fut un discours assez conciliant par moment, mais il n'a pas manqué de dénoncer ce qu'il appelle des enquêtes partisanes et ridicules, en référence aux investigations sur les relations présumées entre sa campagne et la Russie. Et bien entendu, l'immigration est bien présente dans son discours, comme nous le dit Abdulrahman Dia.
Le président Donald Trump n'a pas attendu d'être introduit par la présidente de la Chambre, comme le veut la tradition. Mais dès le début de son discours, il a appelé au compromis.
Nous devons rejeter la politique de la vengeance, de la résistance et du châtiment.
Le président Trump a mis en exergue ses réalisations.
Personne dans le monde ne peut compétir avec l'Amérique.
Le président n'a pas perdu de temps pour aborder l'un des sujets qui l'oppose le plus aux démocrates, sa demande pour le financement d'un mur à la frontière sud du pays.
Par le passé, la plupart des gens dans cette chambre ont voté pour un mur. Mais le bon mur n'a jamais été construit. Je vais le construire.
Cette bataille sur le mur est pourtant à l'origine de la récente fermeture partielle du gouvernement. Le shutdown n'a pas été mentionné dans son discours, même si une autre paralysie des administrations n'est pas écartée. Todd Belt est professeur à l'université Georgetown.
Il n'a pas dit ce que les démocrates voulaient entendre. Il n'a fait aucune offre. Il n'a pas proposé de compromis. Je pense qu'il n'a rien fait qui nous rapproche d'une solution.
Les femmes démocrates se sont habillées en blanc pour célébrer le mouvement des suffragettes qui a abouti en 1920 au droit de vote pour les femmes américaines. Donald Trump a bien compris l'importance du moment en saluant l'élection massive de femmes au Congrès en 2018. C'était un des moments les plus applaudis de son discours. Concernant la politique étrangère, Donald Trump a réitéré son soutien à un changement de régime au Venezuela et vanté ce qu'il considère comme une réussite dans la guerre commerciale avec la Chine, le retrait américain d'un traité nucléaire avec la Russie, l'amélioration des relations avec la Corée du Nord et la pression sur l'Iran. Par ailleurs, Donald Trump a salué la bonne santé de l'économie américaine, mais il a mis en garde contre ce qu'il considère comme étant des enquêtes partisanes visant des membres de son entourage.
Si nous voulons la paix et légiférer, il ne faut pas y avoir la guerre et des investigations.
Stacey Abrahams, qui était candidate au gouvernorat de Géorgie, a apporté la réplique pour les démocrates, dénonçant à ses yeux un discours de division depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Raissa Gironda avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, coup de projecteur sur le discours sur l'état de l'Union prononcé mardi par le président américain Donald Trump. Face au Congrès réuni au grand complet, le locataire de la Maison-Blanche a appelé républicains et démocrates à l'union et au compromis sans reculer sur son projet de mur. Que retenir de son discours? La réplique démocrate était-elle à la hauteur? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Et Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges et Léonard Sagno, dit GLS. À la console, Patrick Ndéa et Eric Manirakiza à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. N'oublie pas, chaque jour, oui, est une vie. Excellente soirée.
VOA Afrique.